Vous êtes sur RTL.
RTL Matin.
Yves Calvi.
Nous allons retrouver dans quelques minutes Laurent Jarret et toute son équipe, mais à 8h41 sur RTL, la revue de presse, et puis d'abord les Français qui dorment donc de moins en moins, Amandine.
Oui, on est passé, c'est une première, hein, sous la barre des 7 heures en moyenne par nuit en semaine, à 6h42 précisément en 2017. Pour vous donner une idée, on était à 7h09 en 2018, à 8h12 en 1970. Ah. Ça veut dire qu'en 50 ans, on a perdu 1h30 de sommeil. C'est considérable. C'est le résultat d'une grande enquête très sérieuse de Santé publique France que relaie ce matin la matinale du Monde. La proportion des petits dormeurs, ceux qui dorment moins de 6 heures par nuit, c'est aussi accru, note le journal, qui relève que les femmes sont plus concernées. Un tiers des Français s'estiment aujourd'hui en dette de sommeil, en cause les écrans, bien sûr, le bruit, la pollution, les temps de trajet qui se sont allongés entre domicile et travail, mais aussi nos rythmes de travail. Aujourd'hui, près de 5 millions de Français travaillent la nuit, contre 3,3 millions en 1990. Alors tout ça, rappelle Le Monde, a bien sûr des incidences sur notre santé. La présidente de l'INVS, l'Institut National de Veille Sanitaire, parle même du déficit de sommeil comme d'une épidémie qui aggrave la plupart des maladies chroniques. De nombreuses études, on vous en parle souvent, hein, ont montré que dormir moins de 6 heures par nuit accentuait considérablement les risques d'obésité, de diabète, d'hypertension, mais aussi de cancer. Mais rassurez-vous, j'ai la solution. Padam, faire chambre à part. Oui, ça c'est à lire. Mais écoutez bien, Yves. Dans le magazine Society, dans son dernier numéro consacré au sommeil, 43% des Français estiment que s'ils dorment mal, c'est entre autres à cause de leur moitié. 58% se plaignent des mouvements de l'autre, 50% de ses ronflements, 10% assurent que la présence de l'être aimé leur donne trop chaud. Rien d'étonnant, nous dit ce matin Joëlle Adrien. Elle est neurobiologiste et directrice de l'INSERM et elle explique que quand on dort, on fait en moyenne 50 mouvements par nuit. Forcément, poursuit-elle, hein, si on dort à deux, on n'est pas forcément synchro. Les mouvements de l'un réveillent l'autre et vice-versa. C'est inévitable. Alors pour faire face, il y a la solution king size. 45% des Français disent avoir adopté un lit plus grand, au moins 1m60. Et puis il y a aussi donc faire chambre à part. 8% des Français ont fait ce choix et 8% seraient autant à y songer. Hein, contrairement à ce que vous pensez, ce n'est pas la mort du couple ne plus dormir ensemble. Ce n'est pas moi qui le dis, mais Jean-Claude Kaufmann, sociologue et auteur d'Un lit pour deux. Il faut, dit-il, mettre fin à l'idée que l'on s'aime mieux si on dort ensemble. Le sommeil, poursuit-il, c'est quelque chose d'individuel, de personnel, et si on ne s'accorde pas pour dormir, eh bien il vaut mieux préserver son sommeil que croire qu'on va ainsi préserver son couple, d'autant que toutes les études le montrent. Ah. En France, 40% des personnes en couple estiment que le manque de sommeil a un impact négatif sur leur vie sexuelle, 39% sur leur vie de couple. Bref, bien dormir, conclut la patronne de l'INSERM, améliore la relation de couple.
Bon, et une fois qu'on est tout seul dans son lit, qu'est-ce qu'on fait?
Bon, alors surtout pas de télé, pas de téléphone ou d'écran, ça vous avez compris. Non, je vous propose de lire. Ah. Lire notamment le nouveau numéro de la revue 6 mois qui sort cette semaine en kiosque. Vous y découvrirez un reportage totalement hallucinant sur le business de la solitude. Tiens, justement, l'histoire de ces live streamers qui, en Chine, à Taïwan ou encore en Corée du Sud, se filment en permanence pour capter l'attention et bien sûr l'argent de leurs fans. Alors, il y a les poupées Barbie qu'on voit en train de manger, en train de danser, en train de faire leurs courses. Mm-hmm. Il y a aussi des mukbang. Alors ça, je ne connaissais pas ce terme. C'est ce que le travail d'un Coréen, notamment, qui mange de la junk food devant sa caméra. Ça atténuerait, paraît-il, la faim de ses fans et romprait leur isolement. Il arrive, tenez-vous bien, à gagner 10 000 euros par mois, je vous avais prévenu. C'est complètement dingue. Lisez aussi l'histoire de ce photographe avalé puis recraché par une baleine. Ça aussi, c'est vrai. C'est notamment sur le site du Huffington Post. Les images sont impressionnantes, car oui, tout a été filmé. Rainer Schimpf, c'est son nom, était en train de photographier des sardines en Afrique du Sud. Il est photographe professionnel. Hein. Oui. Quand brusquement, l'eau se met à tourbillonner, puis tout devient sombre. J'ai tout de suite su que c'était une baleine, raconte-t-il. L'angoisse. Mais Rainer ne panique pas. Je me suis, dit-il, dit que cette baleine ne pouvait pas m'avaler parce que j'étais trop gros. Et c'est pas une énorme baleine, c'est une moyenne baleine. Il a alors retenu sa respiration, attendu que la baleine ouvre légèrement la gueule. Il a été expulsé avec ce qui lui semblait être des tonnes et des tonnes d'eau. Non. Bon, je vous l'accorde, je suis pas sûr que ce soit le meilleur des trucs à lire avant de dormir.
Non, mais enfin, en tout cas, c'est fascinant. Et c'était la revue de presse d'Amandine Bégaud. Dans un instant, Laurent Gérard.
RTL 8h45.